9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Pour la première fois, un homme vit avec un cœur d'animal. C'est un Américain de 57 ans à qui l'on a greffé un cœur de porc génétiquement modifié. Alain Deloche, qui a vécu les débuts de la chirurgie cardiaque en France il y a 50 ans, va nous expliquer en quoi c'est une petite révolution. Et la Banque Centrale Américaine, pour combattre l'inflation, a annoncé la remontée de ses taux d'intérêt. Certains s'inquiètent déjà des conséquences dans la zone euro. L'économiste Anton Brander va nous en dire plus. Mais d'abord, on va parler politique avec Arnaud Benedetti. Arnaud Benedetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, professeur associé à la Sorbonne, où vous enseignez la communication politique. Vous venez de publier « Comment sont morts les politiques » aux éditions du CERF. Commençons par la grève dans l'éducation nationale qui a été particulièrement suivie. Elle n'arrive pas n'importe quand, hein.
Non, elle arrive dans un contexte qui est un contexte préélectoral, dans un contexte sanitaire que l'on connaît, et avec quand même une tension entre le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats, les principaux syndicats d'enseignants, qui est, j'allais dire, constante depuis 5 ans. Donc, on peut considérer que la crise sanitaire, c'est un peu l'acmé aujourd'hui de la défiance de ces syndicats vis-à-vis de leur ministre de l'Éducation nationale. Fort heureusement pour Jean-Michel Blanquer, ça arrive à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle et c'est ce qui, d'une certaine manière, peut-être le sauve dans le contexte actuel.
Les 500 signatures, j'ai l'impression que c'est devenu un passage obligé. À chaque élection présidentielle, on se dresse, on s'indigne de cette époque. Preuve que sont les 500 parrainages répartis en plus sur au moins 30 départements qui font que des candidats, qui par ailleurs représentent une bonne partie de l'électorat, risquent à chaque fois de ne pas être présents.
Oui, alors c'est peut-être de plus en plus vrai, au-delà vraisemblablement des postures pour à un moment donné aussi attirer l'attention en matière de communication politique, c'est de plus en plus vrai parce que finalement, aujourd'hui, l'offre politique est parfois très différente en matière d'opinion publique de ce qu'elle est dans sa représentation territoriale. Si vous voulez, il y a une espèce de dissociation qui est en train d'émerger entre la scène politique nationale, où vous avez des marques qui sont des marques politiques qui, pour certaines d'entre elles, ont une faiblesse d'implantation territoriale, et on le voit hein, lors de cette pré-campagne électorale, avec notamment une marque nouvelle comme celle d'Éric Zemmour, une marque traditionnelle, mais qui elle aussi quand même est implantée territorialement de manière très inégale, qui est le Rassemblement National, voire même Jean-Luc Mélenchon, et les vieilles marques politiques, qui sont des marques politiques, qui sont certes elles, qui maillent le territoire, mais qui aujourd'hui ne correspondent pas forcément, en tout cas aux aspirations d'une grande partie de l'électorat. Donc je pense que, en effet, ce phénomène nouveau fait que la question du mode de parrainage devient de plus en plus aujourd'hui aiguë pour un certain nombre de candidats.
Mais en même temps, ça souligne cette crise de la représentation qui est au cœur de votre nouveau livre, hein, « Comment sont morts les politiques ?»
Clairement, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez un phénomène qui est extrêmement, inscrit dans le paysage politique. C'est d'abord, étude d'opinion après étude d'opinion, une défiance grandissante de larges segments de l'opinion publique vis-à-vis de l'activité politique et vis-à-vis de la classe politique. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein, que l'on a déjà rencontré il y a plus de 30 ans, mais qui ne fait que s'amplifier et s'accroître. Quand on regarde, par exemple, le baromètre du CEVIPOF, le centre d'études sur la vie politique française et l'opinion publique française de Sciences Po, on voit bien que la tendance aujourd'hui est à un accroissement de cette défiance, voire parfois même à un dégoût. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, aujourd'hui, 35% des Françaises et des Français qui expriment un dégoût vis-à-vis de la classe politique. Donc ça, on dit long, si vous voulez, sur ce phénomène de défiance. Et puis l'autre phénomène qui, à mon avis, est beaucoup plus structurant, c'est la montée en puissance de l'abstention électorale, toute élection confondue à l'exception, et encore, il faudrait regarder cela de près de l'élection présidentielle. On l'a vu, notamment lors des dernières élections régionales, mais on l'avait vu lors des dernières élections législatives, des dernières élections régionales, on peut considérer que le contexte sanitaire a pu jouer là aussi, comme il l'avait joué lors de l'élection municipale, en faveur de l'abstention, enfin au détriment de la participation plutôt. Mais quand on regarde les élections législatives de 2017, l'Assemblée nationale qui est élue en 2017 est l'Assemblée nationale qui est la plus mal élue de toute la Ve République en termes de participation électorale. Donc ça nous dit quelque chose quand même sur la relation des Françaises et des Français avec leurs représentants.
Et en même temps, pour faire face à la recrudescence de menaces et de violences contre les députés qui ont augmenté de 47% en un an. Hein. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, vient de mettre en place une cellule bicamérale associant les services du Parlement et les forces de sécurité pour encourager nos parlementaires à porter plainte et pour que ces plaintes soient mieux suivies. Ça aussi, c'est un reflet de notre époque.
Oui, alors c'est vrai que, est-ce que, si vous voulez, une question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que le débat est plus violent qu'il ne l'était par le passé ? Alors, si on regarde, par exemple, si on a un regard historique, quand on regarde la Troisième République, par exemple, notamment l'entre-deux-guerres, le débat politique pouvait être parfois extrêmement violent, y compris dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. J'invite vos auditeurs à aller, par exemple, consulter le journal des débats de l'Assemblée nationale sous la Troisième République. Ils verront que, quand même, un certain nombre de noms d'oiseaux étaient largement jetés à la figure des différents parlementaires lorsqu'ils débattaient. Il y avait aussi des violences physiques, des violences politiques. Les Camelots du Roi, c'était quand même un mouvement qui n'hésitait pas à faire le coup de poing parfois. La réalité, c'est que c'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, cette violence politique semble en effet s'exacerber vis-à-vis d'un certain nombre d'élus. Pas seulement les parlementaires, on a beaucoup parlé des parlementaires ces dernières semaines en raison des débats sur le pass vaccinal. Entre autres, on a vu ce parlementaire, par exemple, de Saint-Pierre et Miquelon, pris à partie chez lui par un certain nombre de ses administrés devant sa maison. Mais on voit bien que ce phénomène, par exemple, touche aujourd'hui les élus, c'est-à-dire les élus, les maires notamment, qui sont très souvent en première ligne par rapport à un certain nombre d'administrés qui peuvent s'en prendre à eux physiquement. Donc il y a malgré tout aujourd'hui une forme de radicalisation qui existe hein, dans l'expression de l'opinion publique et dans la relation des électrices, des administrés aux élus, mais cette radicalisation, il faut aussi la comprendre comme l'expression de cette crise de la représentation. Alors évidemment, il faut la condamner. C'est en démocratie, la violence physique est inacceptable, mais c'est aussi, disons, le symptôme de cette difficulté qu'aujourd'hui le système institutionnel français a à représenter une grande partie de nos concitoyens.
En même temps, j'ai tendance à beaucoup dire en même temps ce matin, il faut que je me surveille. Quand on regarde Boris Johnson, on se dit il n'y a pas un politique français qui va aussi loin. On n'a jamais vu un politique français présenter ses excuses comme vient de le faire Boris Johnson.
Ce n'est pas la même culture, on le sait depuis longtemps, c'est-à-dire que la culture anglo-saxonne est une culture où finalement le comportement que l'on attend d'un chef de gouvernement ou d'un chef de l'État doit correspondre quasiment au millimètre près au discours qu'il peut tenir. En France, vous savez, vous avez le fameux adage qui était celui de François Mitterrand qui disait « n'avouez jamais ». C'est-à-dire que même quand vous mentez, il ne faut pas avouer que l'on a menti. C'est-à-dire qu'en fait, en d'autres termes, la culture de l'excuse, la culture de la repentance, on le voit bien d'ailleurs à l'occasion durant ce quinquennat, même si on voit parfois Emmanuel Macron regretter un certain nombre de propos. Mais il y a un mot qui revient toujours, par exemple, dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il est dans une situation critique, c'est « j'assume ». J'assume. Souvenez-vous, l'affaire Benalla, il assumait. À un moment donné, durant la crise des Gilets jaunes, il a assumé. Alors après, il a reculé un peu quand, disons, les mobilisations sont devenues de plus en plus violentes et où le pouvoir a donné l'impression d'être parfois au bord de l'abîme. Mais là encore, récemment, il a assumé ses propos lorsqu'il désigne les non-vaccinés comme, finalement, des citoyens qui ne le seraient pas tout à fait.
On fait une pause, Arnaud Benedetti. On se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Arnaud Benedetti, le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Votre nouveau livre, Arnaud, « Comment sont morts les politiques ?», qui est paru aux éditions du CERF, est un livre sur la crise de la représentation. Vous racontez comment les trois derniers quinquennats ont accéléré ce mouvement. Comment l'expliquez-vous alors que nos trois présidents récents sont des hommes de qualité, des politiques de conviction ?
Il y a plusieurs phénomènes qui sont liés à des phénomènes de fond. Je pense que la globalisation et, si vous voulez, la mondialisation réduit les marges de manœuvre du politique dans le cadre des États-nations. Ce que je dis là est d'une trivialité absolue, j'en suis tout à fait conscient, mais c'est une réalité, et c'est une réalité qui s'impose aussi aux électrices et aux électeurs, aux Françaises et aux Français, qui considèrent en effet qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est plus forcément à Paris, il est ailleurs. Il est ailleurs dans des instances internationales comme l'OMC, ou comme par exemple l'Union Européenne. Il est ailleurs également dans un certain nombre d'organisations économiques ou d'entreprises qui pourraient être les GAFAM. Donc il y a cette réalité-là. Le deuxième sujet, c'est que vraisemblablement aussi, et ça je pense que c'est lié finalement peut-être à un problème d'éducation, c'est que la politique, qui a été une école d'excellence dans l'histoire de la République en France, sous la 3e, sous la 4e République, c'est-à-dire qu'elle écrêtait quand même et qu'elle permettait l'accès des élites, finalement, aux fonctions politiques, n'est plus vraisemblablement, j'allais dire, l'astre qui attire forcément les meilleurs, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ceux qui ont envie, finalement, de donner un sens à leur existence, un sens à leur carrière, vont s'orienter vers d'autres activités, notamment, entre autres, les activités économiques ou parfois les activités financières. Ça, c'est une réalité à laquelle on est confronté et qui explique aussi ce sentiment de déclassement du politique. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais quand on regarde les études d'opinion, on voit que le jugement vis-à-vis de la classe politique est de plus en plus, sévère. Et il est de plus en plus sévère parce qu'il y a ce phénomène qui rentre en compte. Et puis le troisième élément, c'est vraisemblablement le fait que la représentation politique n'apparaît plus adaptée à un certain nombre d'aspirations et d'attentes de l'opinion publique. Ce qu'on appelle la crise de la représentation est un phénomène qui s'est développé depuis maintenant une trentaine, voire une quarantaine d'années. On en parlait déjà sous François Mitterrand. Le surgissement, finalement, du Front National, déjà dans les années 80, c'est l'expression de cette crise de la représentation. Le renforcement des écologistes également, le renforcement de tout un ensemble de forces politiques qui sont nées, disons, durant les années 80 et les années 90, traduisent cette crise de la représentation. Et aujourd'hui, on est véritablement, récemment, à l'acmé de cette crise de la représentation.
Mais en même temps, on parle de crise de la représentation, on parle de défiance, on parle de désenchantement populaire. Mais l'enchantement a-t-il jamais existé ? Y a-t-il eu un âge d'or de la politique en France ? La 4e République, enfin, c'est Guy Mollet, quoi. La Troisième République. Première partie de la Troisième République, il y a des types formidables. Il y a des lois extraordinaires, d'ailleurs, sous l'empire desquelles nous vivons encore. Mais la deuxième partie de la Troisième République,
oui,
c'est une catastrophe.
Quand on regarde le début de la Troisième République, la Troisième République, les années 1880 et 1890, ce sont des années d'une intense activité législative sur le plan, par exemple, des libertés publiques. La Troisième République fonde un certain nombre des principes qui régissent aujourd'hui encore notre régime. La réalité, c'est que, si vous voulez, il y a eu ces dernières années plusieurs phénomènes qui expliquent ce désenchantement. Premier phénomène, c'est l'accès de la gauche au pouvoir en 1981. Souvenez-vous, en 1981, quand François Mitterrand arrive à l'Élysée, il s'agit de changer la vie. Donc on est élu sur une promesse d'illusion lyrique où on va changer la société, remettre en cause le capitalisme, remettre en cause les lois de l'économique. Et puis finalement, très vite, au milieu des années 82-83, vous avez le tournant de la rigueur et une gauche qui va finalement s'acculturer aux grands principes de l'économie de marché, de l'économie libérale. Vous avez cette première rupture. Deuxième rupture, vous avez 92, le traité de Maastricht. Maastricht est très intéressant parce que Maastricht va profondément fissurer la scène politique française, où on voit que des forces politiques diverses et variées vont se diviser sur la question européenne. Et surtout, vous avez avec Maastricht cette idée que, finalement, aujourd'hui, le pouvoir politique n'est plus seulement dans les instances nationales. Le fait que la question de la monnaie échappe au pouvoir et aux États-nations et devienne un instrument de gestion à travers une banque centrale européenne, ben, ça participe à une forme de technocratisation du politique. Et troisième élément, c'est 2005. 2005, vous avez une coupure extrêmement importante. C'est-à-dire que là, en 2005, vous avez un résultat de référendum qui est différent, bien évidemment, de celui de 92 avec Maastricht, où vous avez une majorité de Françaises et de Français qui expriment un non au projet de traité constitutionnel. Et trois ans plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le Congrès qui valide le traité de Lisbonne, qui rétablit d'une certaine manière, alors pas tout à fait au millimètre près, mais l'épure du traité qui a été rejeté par les Français. Vraisemblablement, cet événement de 2008 va, disons, participer à la démonétisation de l'acte de vote, va renforcer la démonétisation de l'acte de vote. C'est-à-dire que pour un certain nombre de nos concitoyens, à tort ou à raison, l'idée d'aller finalement dans un bureau de vote, aller déposer un bulletin de vote dans l'urne n'est plus finalement quelque chose qui est utile parce que tout simplement, on ne les entend pas ou on ne les entendrait pas.
La crise de la représentation va jusqu'à une crise de la démocratie. On dirait que la démocratie n'est plus aussi sexy qu'elle l'était aux yeux de la plupart des gens qui ont la chance pourtant d'y vivre. Est-ce que cette fragilité de la démocratie, est-ce qu'on ne disait pas déjà ça tout au long du XXe siècle? Et pourtant, les démocraties ont vaincu les empires centraux pendant la Première Guerre mondiale, les dictatures au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS à la fin de la guerre froide. Cette démocratie qu'on croit toujours vacillante, fragile, est-ce qu'elle n'est pas toujours bien plus forte qu'on ne le croit?
Oui, vous avez raison, mais on le disait moins durant la guerre froide. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a deux phénomènes qui me paraissent importants. C'est en effet l'affaiblissement des États-nations, qui constitue quand même la forme politique avec laquelle la plupart des États européens se sont construits, et puis également l'affaiblissement des principes libéraux dans les démocraties libérales. C'est vrai que durant la guerre froide, ces principes étaient finalement peu discutés dans les sociétés des démocraties libérales. C'était quelque chose qui était vécu comme naturel et pour lesquels on était peut-être prêt même à mourir pour les défendre. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a, et on le voit bien à l'occasion de cette crise sanitaire, c'est très intéressant de voir comment cette crise sanitaire permet l'accommodement avec des principes qui sont des principes d'exception par rapport aux principes qui régissent les libertés publiques dans des démocraties libérales. Vous avez une majorité de Françaises et de Français qui, bien évidemment, en raison de la crise sanitaire, en raison de la protection qu'ils appellent de leurs vœux en ce qui concerne la santé publique, considèrent qu'on peut prendre un certain nombre de libertés de manière très exceptionnelle peut-être, et encore c'est à démontrer puisqu'on voit que les mesures de transition quand même s'installent parfois dans la durée. En tout cas, c'est la thèse par exemple d'un philosophe italien Agamben qui dit, vous savez, le régime d'exception finalement ça devient un régime d'exception permanent. Il y aura toujours une bonne raison sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, de prendre des dispositions qui sont des dispositions exceptionnelles. Donc il y a malgré tout une forme d'acculturation à ce phénomène-là.
Merci Arnaud Benedetti. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, hein, « Comment sont morts les politiques ?» C'est paru aux éditions du Cerf. On fait une pause, on se retrouve juste après avec un des pionniers de la chirurgie cardiaque en France, c'est Alain Deloche. Et évidemment, on va parler de cet homme à qui l'on a greffé un cœur de porc transgénique.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Un Américain de 57 ans s'est vu greffer cette semaine avec succès un cœur de porc. C'est une première mondiale. Alain Deloche, bonjour.
Bonjour.
Vous avez participé à la naissance de la chirurgie cardiaque en France dans les années 70. Vous êtes le fondateur de la chaîne de l'espoir. Qu'est-ce que cette nouvelle vous a inspiré ?
Je dirais que c'est une nouvelle pleine d'espoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait la brebis clonée, Dolly. C'est le chapitre, au fond, des greffes animales pour l'homme, qui est un vaste chapitre. Tout part, en fait, d'un animal proche de l'homme, c'est le porc, en termes de morphologie, d'anatomie, et tout part d'un porc qu'on appelle transgénique, c'est-à-dire un porc génétiquement modifié pour être compatible avec l'homme. Ça, c'est la base de la recherche. Alors, pourquoi c'est un événement important et plein d'espoir? Parce que c'est une réalisation. Alors après, on peut parler des difficultés possibles, des obstacles, sûr, mais si vous me permettez, je voudrais citer les mots d'un grand chirurgien cardiaque, père de la greffe cardiaque chez l'homme, qui s'appelle toujours Norman Shumway, en Californie, et qui nous disait, dans les années 80, la greffe cardiaque animale est l'avenir et le restera.
Pourquoi est-ce que ça a mis si longtemps, à votre avis? Parce que la première greffe du cœur par le professeur Christian Barnard a eu lieu en Afrique du Sud en 1967. Et transplanter un cœur animal, ça ne doit pas être beaucoup plus difficile qu'un cœur humain.
Chirurgicalement, non. Mais le problème est ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut d'abord construire un animal transgénique, ou du moins un porc transgénique, qui demande énormes recherches sur le plan génétique, sur le plan immunologique, mais surtout génétique, car on transforme le génome du porc.
Pour qu'il soit compatible.
Pour qu'il soit compatible, et l'idée que l'on avait, et qu'on a toujours, c'est une banque de cœur. Vous voyez l'objectif. Dans les années 2000, je crois de mémoire que c'est le premier porc transgénique qu'on a d'ailleurs greffé sur un babouin, qui a vécu plus d'un an. Mais en fait, le principal obstacle, on peut en parler, il est peut-être d'ordre infectieux. C'est-à-dire, ce que l'on craignait dans les années 2000, c'est l'arrivée d'un virus animal, vous voyez de quoi je veux parler,
oui.
et même d'un virus plus petit qu'un virus qui s'appelle le prion, c'est celui qui a déclenché la vache folle, et c'est le principal obstacle qui existait dans les années 2000. Et c'est par crainte de cette épidémie, qui aurait pu être une épidémie mondiale avec le traitement immunosuppresseur, que l'on a mis un peu de côté cette idée. Ben maintenant, la recherche a avancé. On nous promet un animal germe-free, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire vacciné de toutes parts et contrôlé de toutes parts pour mettre de côté le risque infectieux. Donc après, ça reste une tolérance, c'est-à-dire surtout éviter le rejet.
Oui, le rejet immédiat, hein, c'est d'ailleurs pas encore gagné définitivement. David Bennett, qui a profité de cette greffe, peut encore le rejeter. Mais les perspectives que ça ouvre sont extraordinaires, vous le disiez. Hein. Combien de patients en France attendent en ce moment même une greffe du cœur et un cœur porcin, c'est plus facile à trouver qu'un cœur humain.
Bah, évidemment, c'était ça l'idée. Il y a une limite à la transplantation humaine. Ce sont les donneurs. Bien sûr. Vous savez, par exemple, en France, il y a un nombre qui ne bouge pas beaucoup, c'est les transplantations cardiaques. Bon, c'est à peu près 400 greffes cardiaques par an. Et les listes d'attente dépassent les 2-3 000.
Et pour les enfants aussi, parce qu'il y a très peu d'organes disponibles. Et avec les porcelets, ça devient possible.
Évidemment. Non, vous voyez, là, on ouvre un champ dont on ne voit pas la fin.
En septembre dernier, à New York, le rein d'un porc génétiquement modifié a été greffé sur un patient en état de mort cérébrale. C'était donc juste une expérience, mais elle a fonctionné.
Oui, oui.
Et dans ce domaine aussi, les perspectives sont formidables. Faute d'avoir un rein à temps, combien de personnes meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas eu un rein à temps en France?
Je ne connais pas le nombre exact, mais mettons-nous à l'échelle mondiale, c'est des centaines de milliers. Et là, le besoin, il n'est pas discutable. Il n'est pas discutable. Et la limite de la greffe humaine, on sait bien, c'est un nombre limité d'emblée, qui sont le nombre de donneurs.
En 1967, Christian Bernhardt est devenu une star mondiale après son exploit. Oui. Cette fois, on ne nous dit pas le nom du chirurgien du Maryland qui a greffé un cœur de porc.
Oui, on dit l'école de Maryland.
Voilà, on connaît le nom du patient, David Bennett, pas celui du médecin. Pourquoi est-ce que c'est par peur qu'il reçoive des menaces? Les xénogreffes, ça choque encore du monde?
Ah, c'est sûr qu'il y a sûrement des mouvements d'opposition aux xénogreffes. Ça, il peut déclencher même des actions irrationnelles. Bernhardt, c'était une autre époque. Hein. On se souvient de l'époque des années 67, 68. Il y a moins de glorification, si je puis dire. Les médecins, on leur parle, les chirurgiens aussi, mais tout le travail est d'ordre génétique pour la génétique et l'immunologie. Hein. Parce que c'est sur le plan technique, implanter un cœur, ce n'est pas une prouesse chirurgicale. Oui, c'est une opération délicate, mais enfin, pour un chirurgien, on sait comment faire.
Oui. Merci Alain Deloche de nous avoir...
Plein d'espoir. Hein.
Merci beaucoup. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Anton Brender. On va parler de hausse des taux d'intérêt et d'endettement.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Anton Brender.
Bonjour.
Vous êtes économiste en chef chez Candriam, professeur associé à l'Université Paris-Dauphine. Et vous êtes l'auteur avec Florence Pisani et Émile Cagnat d'Économie de la dette, qui est paru en octobre à la Découverte. Or, pour la première fois depuis 40 ans, l'inflation atteint 7% aux États-Unis. On n'avait pas vu ça depuis 1982. La Fed, la Banque centrale américaine, amorce en conséquence une augmentation des taux d'intérêt. Est-ce que c'est la fin d'une époque, celle des taux historiquement bas qui permettaient de s'endetter à bon marché?
Je ne crois pas que ce soit la fin d'une époque. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu non plus depuis 40 ou 50 ans, et même depuis presque un siècle. On n'avait jamais eu une économie mondiale qui traverse une pandémie semblable à celle qu'on vient de traverser. Et ça explique une des choses qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire cette remontée de l'inflation. En même temps, il faut s'en rappeler, avant que l'inflation ne remonte, partout, les gouvernements s'étaient endettés pour faire face à la pandémie. Et une des idées qui s'était développée il y a quelques mois encore, c'était que, compte tenu de cette hausse de l'endettement des États, les banques centrales hésiteraient à monter les taux. Et ce que nous dit, la première chose que nous dit la Banque centrale américaine et les discours qu'elle tient, c'est que les banques centrales, et en tout cas la Fed, n'hésitera pas à monter les taux, alors même que l'État américain a vu sa dette progresser, comme dans presque tous les autres pays, d'au moins une dizaine de points de PIB. Donc, il y a une première chose que les banques centrales nous disent, c'est nous ne laisserons pas l'inflation déraper.
Quelles conséquences pour les autres banques centrales, la Banque centrale européenne en particulier ?
Je pense que la Banque centrale européenne, on n'est pas du tout en termes d'inflation sur les mêmes niveaux d'inflation. On n'a pas non plus en Europe, on pourra peut-être y revenir, des salaires qui augmentent comme ils augmentent actuellement aux États-Unis. Donc la Banque centrale européenne, j'en suis convaincu, fera exactement comme a fait et comme est en train de faire la Banque centrale américaine, c'est-à-dire qu'elle va piloter les taux d'intérêt dans un sens qui vise à, avec prudence, mais avec détermination, éviter une accélération continue de l'inflation, quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on a connu pendant les années 70. C'est pour ça que je dis, il y a peu de chances qu'on reste longtemps avec le niveau d'inflation qu'on a aujourd'hui, mais pas longtemps, ça veut quand même dire, sans doute, au moins l'année qui vient. Et il va y avoir, il faudra un certain temps pour que toutes les tensions qui se sont formées pendant la pandémie, au niveau de la planète entière, eh bien, il va falloir du temps pour qu'elle se dissipe.
Mais ça risque de faire éclater la bulle boursière, car les bourses flambent et c'est sans grand rapport avec l'économie réelle. Ça vient uniquement du fait que les taux d'intérêt sont bas.
Les taux d'intérêt sont bas, les taux d'intérêt vont monter. Ils vont monter et les banques centrales pilotent ces taux d'intérêt. La Fed, de ce point de vue-là, jusqu'à présent, s'en est très bien tirée. Elle est en train d'expliquer au marché qu'elle va monter les taux. Elle n'a touché à rien. Les taux montent et pour l'instant, ce qu'on pourrait appeler une bulle boursière, je ne pense pas que ce soit complètement une bulle, mais en tout cas, les niveaux très élevés de bourse qu'on a tiennent. Alors, toute l'habileté des banques centrales, c'est justement d'arriver à normaliser leur politique sans faire trop de dégâts. La grande question, c'est est-ce qu'elles vont arriver au terme d'un épisode, je répète, les deux années qu'on vient de vivre, c'était quelque chose de complètement unique. Est-ce qu'elles vont arriver en plus à faire ce qu'on appellera à ce moment-là un soft landing ? C'est la grande question et toute l'habileté des banquiers centraux, c'est justement de piloter les taux, les marchés, leurs anticipations de façon à ce qu'il n'y ait pas de crash
et d'atterrir en douceur.
Mais tant qu'on n'a pas atterri, on ne sait pas comment ça va se terminer.
Ça va avoir aussi des conséquences sur les dettes des États. Dans le cas de la France, par exemple, les conditions de financement de notre dette publique restent très favorables. La charge de la dette est tout à fait soutenable. Mais est-ce que ce sera toujours vrai une fois que les taux remonteront ?
Ce ne sera pas toujours vrai. Et toujours, c'est un terme qu'il ne faut jamais employer, comme on dit. Mais ce qui est sûr, et ça, il faut le redire, c'est que les taux auxquels nous payons notre dette, auxquels les États, la France en particulier, paient leur dette, sont des taux qui résultent de ce qui a été accumulé déjà comme dette. Et toute la dette qu'on a accumulée pour l'instant, elle est à des taux qui sont bas. Alors tous les ans, on va renouveler une partie de cette dette. Mais il va falloir au moins 5 ans, pour dire les choses grossièrement, pour que le coût de notre endettement monte au niveau que vont petit à petit avoir les taux. Tout simplement parce que ça n'est qu'année après année que le coût de notre endettement va remonter. Et donc, on a un certain temps. Si on a peur de l'évolution de la charge de notre dette, il faut savoir qu'on a un certain temps pour ajuster nos déficits, nos budgets, à ces nouvelles conditions de financement. Ce n'est pas quelque chose d'aussi brutal que pourrait l'être la hausse des taux qu'on va observer au moment où elle se produit.
Le taux de remboursement moyen de la dette publique française, c'est 1,5%. C'est son plus bas niveau historique, je crois.
Alors que c'est un des, c'est le plus bas, c'est même un tout petit peu moins, je pense, mais la charge d'intérêt dont on parle, elle est très basse, alors même que le poids de notre dette dans le PIB, lui, il a doublé.
Mais la Banque Centrale Européenne, elle rachète la dette publique émise par les États membres de la zone euro. Si elle arrête, qu'est-ce qui va se passer ?
C'est une des grandes questions aussi qui est posée. Pour l'instant, il n'est pas question qu'elle arrête. Mais il y a deux choses dans les achats qu'elle a fait qui sont importantes. Il y a d'une part le fait qu'elle achète de façon uniforme les titres des différents pays, les titres de dette des différents pays, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Et puis il y a une deuxième chose qui est spécifique à la BCE, et c'est là-dessus qu'il y a le plus d'interrogations, c'est qu'elle s'est engagée pendant la pandémie à éviter qu'il n'y ait des écartements de coûts d'endettement entre pays. Autrement dit, les pays de la zone euro. Il faut savoir qu'il y a plusieurs pays qui émettent chacun leur dette, qui ont des qualités qui peuvent être jugées différentes, mais il n'y a qu'un taux du côté de la BCE, mais elle a la possibilité d'acheter un peu plus de dette des pays dont les taux d'intérêt auraient tendance à déraper un peu pour calmer le jeu. Jusqu'à présent, elle l'a fait. C'est pour ça que nos conditions d'endettement, celles de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, ont évolué de façon extrêmement favorable. La grande question, c'est que se passera-t-il dans les 18 mois qui viennent si demain, on devait voir le coût de la dette italienne, le coût de la dette portugaise, pourquoi pas de la dette française, s'écarter de celui de la dette allemande. Et là, c'est une des questions qui est posée du point de vue de la politique que mènera la BCE.
Certains, les plus pessimistes, parlent déjà d'implosion de la zone euro.
Oui, alors on en parle quand même assez régulièrement, c'est le côté rassurant, hein, mais ça ne veut pas dire que jusqu'à présent, la zone euro a tenu. Elle a tenu en particulier et essentiellement parce que la BCE a tenu la zone euro par une politique monétaire qu'elle a à chaque fois ajustée pour éviter un éclatement de la zone euro. 2012, c'est le fameux retournement, hein, juillet 2012, où Draghi dit « je ferai tout ce qu'il faut ». Et de ce jour-là, la zone euro a tenu. On a eu quelque chose de plus modéré, mais dans le même sens, pendant la pandémie. Tout a été fait pour éviter un éclatement de la zone euro. Si demain, on était à nouveau au bord d'une situation aussi dramatique, eh bien, la Banque centrale serait sans doute devant ses responsabilités.
On fait une pause, Anton Brender. On reprend cette conversation juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Anton Brender, l'économiste en chef de Candriam, qui est également professeur associé à l'Université Paris-Dauphine et l'auteur, avec Florence Pisanier et Émile Cagnat, d'Économie de la dette, un livre qui est paru en octobre à la Découverte. La hausse des taux d'intérêt de la Fed, dont on parle depuis le début de notre entretien, a pour vocation, on l'a dit, de réduire l'inflation. Mais elle peut tout aussi bien provoquer un ralentissement brutal de l'économie américaine, voire une récession.
C'est ce qui s'est passé. Le dernier épisode de grande inflation qu'on a connu aux États-Unis, c'était les années 70, il faut s'en rappeler, il s'est terminé par une récession absolument dramatique provoquée par une politique de hausse des taux menée par la Réserve fédérale, Paul Volcker, hein, c'est le nom qui est associé à cet épisode, qui a laissé les taux exploser littéralement et qui a tué la conjoncture américaine. Aujourd'hui, tout l'effort des banques centrales, c'est précisément d'éviter ce type de choc. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que par elle-même, l'inflation, parce qu'elle érode le pouvoir d'achat des ménages, des entreprises, eh bien, elle freine l'économie. Et ça, c'est un des facteurs de freinage qui va jouer, plus bien sûr la hausse des taux. Mais l'inflation par elle-même, surtout aux États-Unis, elle freine l'économie parce qu'elle réduit le pouvoir d'achat de ceux dont le revenu, hein,
Un certain nombre d'entre nous s'en souviennent d'ailleurs. Moi, j'étais adolescent à l'époque. C'était Raymond Barre, le premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. C'était à l'époque des taux d'inflation absolument considérables.
Ah oui, oui, oui.
Mais c'est un spectre qu'on ne voudrait pas voir revenir.
Mais je pense qu'on n'a absolument pas de raison de le craindre, sachant que les banques centrales ont tiré les leçons de cet épisode. Et qu'est-ce qui s'était passé pendant les années 70? Eh bien, les banques centrales étaient littéralement endormies au volant. Et donc, elles ne montaient pas les taux avant que l'inflation ne prenne des proportions importantes. Elles passaient leur temps à être en retard sur l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation vient juste de décoller et les banques centrales ont bien l'intention d'éviter une accélération continue des hausses de prix. C'est ça l'erreur qu'elles sont absolument certaines de vouloir éviter aujourd'hui.
Vous le disiez, la différence entre la France, par exemple, et les États-Unis, c'est que les États-Unis, en ce moment, il y a non seulement de l'inflation, mais il y a une augmentation des salaires, due au fait que depuis la crise du Covid, un certain nombre de secteurs de l'économie manquent de main-d'œuvre.
Il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire pendant la pandémie. On a littéralement renvoyé chez eux, hein, une partie de tous ceux que la pandémie, la pandémie rendait le travail inutile. C'est-à-dire que quand vous étiez plongeur dans un restaurant, serveur, balayeur dans un hôtel, etc., comme le restaurant était fermé, l'hôtel était fermé, on vous renvoyait chez vous. Une partie de ces gens, aujourd'hui, ne sont pas revenus aussi facilement qu'on le pensait sur le marché du travail au moment où l'activité dans les hôtels, dans les restaurants, dans les cafés a repris. Et aujourd'hui, et ça aussi, c'est quelque chose qui explique pourquoi la Fed est prête à monter les taux. Eh bien, les salaires de ces gens-là, pour les faire revenir dans des entreprises qui aujourd'hui sont en train de voir leur activité reprendre, on est obligé de les payer plus. Et ça, ça fait monter les salaires de ceux qui étaient les plus mal payés dans l'économie américaine. Et la Réserve fédérale, il y a juste quelques années, avait inclus dans son objectif de plein emploi la volonté, le souhait d'arriver à faire que les salaires de tous les Américains, y compris ceux qui gagnent le moins, et en particulier ceux qui gagnent le moins, montent. Ce qui fait que la Fed aujourd'hui, grâce à ces frottements créés par la pandémie, eh bien, est plus près d'atteindre son objectif de plein emploi qu'on ne l'aurait pensé, hein, si on regarde. Parce qu'il manque toujours des emplois dans l'économie américaine, mais les salaires les plus bas montent quand même. Et ça, ça rend la Fed relativement à l'aise pour lutter maintenant en priorité contre l'inflation, parce que les salaires les plus bas, en particulier, sont en train de monter.
En même temps, une forte inflation, si elle arrivait chez nous, hein, amputerait le pouvoir d'achat des Français. On sait que c'est le souci numéro un des Français, c'est leur pouvoir d'achat. Hein. On le répète assez pendant cette campagne présidentielle. Notre inflation à nous, elle était de 2,8% en décembre, mais elle pourrait se maintenir à ce niveau dans les mois qui viennent.
Elle pourrait, oui, oui, bien sûr, parce que notre inflation, elle est corrélée à l'inflation mondiale. Elle est moindre parce que les hausses de salaire dont on parlait n'ont pas pris du tout la même proportion en Europe, parce qu'on n'a pas une demande de biens qui a explosé comme elle a explosé aux États-Unis pendant la pandémie. Mais ce qui est sûr, c'est que l'inflation, dans un pays comme le nôtre, va éroder le pouvoir d'achat, et elle le fera d'autant plus qu'il y a, par rapport aux États-Unis, un problème supplémentaire qui s'est greffé, c'est celui de l'approvisionnement énergétique. Et aujourd'hui, ce qui pose un problème à tous les pays européens, c'est la hausse des prix du gaz, de l'électricité, sur la façon dont c'est géré. Et là, ce qu'on constate aussi, alors il y a peut-être un petit côté électoral, mais dans un pays comme le nôtre, actuellement, il y a des aides importantes qui sont apportées pour que ça ne soit pas entièrement répercuté sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça fera
pas pour
moins.
L'instant, mais ça le
pas
sera
pas pour
jour.
L'instant. Ça le sera peut-être un jour. En tout cas, pour l'instant, ça va être répercuté sur la dette publique, hein, puisque c'est l'État qui, directement ou indirectement, va payer. Ça se fait un peu dans tous les pays de la zone euro. Mais c'est une des façons d'amortir le choc pour le pouvoir d'achat des ménages.
Dernière question, Anton Brender. Pour contenir l'inflation, qu'est-ce qu'on peut faire?
Je crois que ce qu'on peut faire, c'est éviter de laisser l'activité exploser. On en est loin, hein, puisque rien que la hausse des prix, ça va freiner l'activité. La hausse des taux, ça va contribuer à freiner l'activité. On n'a pas besoin, il n'y a pas un tel feu qui soit aujourd'hui déclaré, même si les chiffres sont spectaculaires. Il faut rappeler qu'il y a un an, l'inflation était très inférieure aux 2% qu'on attendait. Donc, il faut regarder les choses en moyenne. Je pense qu'il faut laisser nos banques centrales agir. Elles le font. On pouvait en douter il y a encore quelques mois. Maintenant, on en a la certitude. Je ne pense pas que l'inflation sera durablement sur les niveaux qu'on connaît aujourd'hui.
Jusqu'ici, tout va bien.
Jusqu'ici, comme vous dites.
Économie de la dette, c'est signé Anton Brender, Florence Pisani et Émile Cagna. Ça vient de paraître aux éditions La Découverte. Merci encore.
Merci. Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est parvenue à son terme. On se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, ce sera Pierre de Villeneuve, les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
Quel est le programme?
La crise de l'école par-dessus la crise sanitaire. Macron se serait bien fait l'économie de ce pataquès. Omicron nous rattrape, est-ce finalement pour la bonne cause? Et puis à gauche comme à droite, la guerre est ouverte.
Bonne émission.
Merci.